Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse.
Le roi Saül, il conçoit et développe dans son cœur une envie terrible contre David qui remplit le pays de ses succès, mais contre les Philistins notamment. Et il lui voue une haine grandissante et veut le supprimer. Et il s'en ouvre devant Jonathan, son fils, et devant ses officiers. Et Jonathan donc intercède pour son ami David devant son père. Que le roi, c'est au chapitre 19 du premier livre de Samuel, que le roi ne pèche pas contre son serviteur David, car celui-ci n'a commis aucune faute contre toi. Bien plutôt, ce qu'il a fait a été d'un grand profit pour toi. Il a risqué sa vie, il a abattu le Philistin, et le Seigneur a procuré une grande victoire à tout Israël. Tu as vu et tu t'es réjoui. Pourquoi pécherais-tu par le sang d'un innocent en faisant mourir David sans raison ? L'impressionnable Saül, qui, comme tous les faibles, est sujet à de brusques mais éphémères retours, se rend aux arguments de son fils et va jusqu'à jurer que David ne mourra pas. Il est même réintégré à son service. La vie reprend. David remporte des victoires. La jalousie de Saül se réveille. Le coup de la lance se reproduit au cours d'une nouvelle séance de musique. Et cette fois, David s'enfuit sans attendre le second coup. La haine de Saül ne connaît plus de retenue et il fait encercler la maison de David pour le tuer au matin. Ce dernier, sur les instances de sa femme, avait déjà pris le large et quand les émissaires de Saül entrent, Michal déclare que son mari est malade. Portez-le-moi dans son lit pour que je le mette à mort, rétorque le roi. Mais dans le lit, Michal avait arrangé un mannequin, une tresse en poil de chèvre tenant lieu de tête. Saül ne fera plus confiance ni à sa fille ni à son fils trop attaché à David et organisera dans le secret ses poursuites. C'est alors qu'eut lieu une émouvante rencontre entre David et Jonathan. « Qu'ai-je donc fait ? Quelle a été ma faute ? Quel a été mon crime envers ton père pour qu'il en veuille à ma vie » s'écrie-t-il excédé. Et il poursuit, « Montre ta bonté envers ton serviteur, dit-il à Jonathan, puisque tu l'as uni à toi dans un pacte au nom du Seigneur. » Un pacte au nom du Seigneur, ce pacte d'amitié. « Et si je suis en faute, fais-moi mourir toi-même. Pourquoi m'amener jusqu'à ton père ?» Et Jonathan ne peut que lui répondre, « Loin de toi cette pensée. Comment l'ami livrerait-il son ami ?» Et n'est-ce pas le lieu de citer ce proverbe dans le livre des Proverbes au chapitre 17, verset 17, donc 2 × 17, « Un ami aime en tout temps, un frère est engendré en vue de l'adversité. » Les amitiés intéressées ne tiennent pas quand arrivent les revers. La richesse multiplie les amis, mais de son ami, le pauvre est privé, dit un autre proverbe, 19:4. Et nous pouvons continuer dans le Siracide, dans l'Ecclésiastique, au chapitre 6, des versets 8 à 12. Car tel lie amitié lorsque ça lui chante, qui ne restera pas fidèle au jour de ton épreuve. Tel est ami qui se change en ennemi et qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Tel est ami et s'assied à ta table qui ne restera pas fidèle au jour de l'épreuve. Dans ta prospérité, il sera un autre toi-même parlant librement à tes serviteurs. Mais dans ton abaissement, il se tournera contre toi et évitera ton regard. Oui, pour reprendre le livre des Proverbes au chapitre 18e au verset 24, il y a des amis qui mènent à la ruine. Il y en a qui sont plus chers qu'un frère. est-elle et bien Jonathan pour David, plus cher qu'un frère. Bien loin de dissoudre leur amitié, la persécution acharnée de Saül contre David la scelle définitivement. Ce qui est d'autant plus extraordinaire que Jonathan devrait voir en son ami son plus dangereux rival, comme le lui rappelle son père. « Fils d'une dévoyée » ose-t-il lui dire à son fils, de Saül. « Fils d'une dévoyée, ne sais-je pas que tu prends parti pour le fils de Jessé, à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère ?» Oui, c'est du concret. « Et aussi longtemps que le fils de Jessé vivra sur la terre, tu ne seras pas en sécurité ni ta royauté. » Il s'agit bien d'une amitié oblative, totalement désintéressée de la part de Jonathan. Il préfère David à sa propre royauté, d'autant qu'il sait d'instinct que le fils de Jessé sera vraiment le roi d'Israël. Jonathan a la fidélité au fond de son âme. Il est, et comme nous l'avons constaté plusieurs fois, prêt à toute bonne œuvre que le Seigneur peut lui inspirer, fût-elle héroïque. En raison de son attache à Dieu, il a pu pressentir le dessein divin de donner Israël à David. Et s'il est vrai qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, son attachement à David le rend clairvoyant sur son propre avenir. Nous venons d'entendre David rappeler à Jonathan le pacte par lequel ils se sont liés. « Montre ta bonté envers ton serviteur, puisque tu l'as uni à toi dans un pacte au nom du Seigneur. » Lorsque les amis se sont liés dès le premier regard, le rédacteur a bien parlé d'un pacte, mais ce n'est qu'ici qu'il précise la profondeur de ce sentiment d'amitié. Il s'agit d'un pacte au nom de Dieu.